Chaque année, on commence avec quelque chose de nouveau. Et je prie au Seigneur, et j'aimerais bien, Seigneur, à faire une série. Mais donc quoi? Bon, Joël, tu as toute la Bible pour la série, donc on peut faire de Genèse à l'Apocalypse. Et on peut, même pour l'éternité, on peut continuer à discuter de ça avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose comme Emmaüs et Adit, et elle va presque piquer le sujet, mais notre série s'appelle, s'appelle « Vivant en adorant ». Vivons en adorant. Donc, on verra au fur et à mesure qu'on va passer par les pages du livre de 1 Samuel et comment, dans un moment sombre de la vie du peuple d'Israël, parce qu'il avait des bons moments et des très mauvais moments, et comment Dieu était présent et comment Dieu a appelé son peuple toujours à l'adoration. Dans des moments difficiles, dans des moments de joie, dans de tout moment, venir à adorer notre Seigneur. Et comme chaque série, on a une petite phase à... On va relire cette phrase. Oh, waouh, je pensais que c'était plus grand. Je vais la faire plus grand pour la semaine prochaine. Mais il y a une phrase qu'on va lire toutes les fois qu'on va parler de cette série pour qu'on puisse la mettre dans notre tête. La vie que Dieu nous donne doit être vécue en complète confiance et en regardant les difficultés comme des occasions de rapprochement au trône de sa grâce pour trouver l'aide nécessaire et ainsi lui rendre gloire. Ça se vit en adorant. Ça se vit en adorant. Et les versets clés de notre temps, c'est « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Vous voyez qu'il y a trois mots qui sont soulignés. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas simplement une demande. C'est qu'il faut. C'est qu'il faut. Donc, notre vie, on doit la vivre en adoration, en adorant. Alors, mais il y a une démarche importante. Et on va commencer aujourd'hui avec notre titre. Il y a une démarche importante à faire avant de commencer notre vie en adoration. Donc, 1 Samuel, vous voyez qu'il y a beaucoup de versets à lire. Donc, il y a une seule et unique sujet aujourd'hui, c'est la vie de Anne qu'on va lire. Donc, je vais demander à Annie en premier si elle peut lire, s'il te plaît, et de chapitre 1 de 1 Samuel, verset 1 jusqu'à verset 18.
Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Shuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi tu ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur s'y attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que deux fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'angle des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder la condition de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Tu me dis qu'on doit m'arrêter.
À 18. Merci.
Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais monter ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même.
Merci Annie. Il faut comprendre quelque chose avant de continuer. Pour ce moment-là, dans Israël, une femme sans enfant n'était pas bénie. D'accord? Donc, c'est pourquoi on voit, et après, on est en train de lire avec nos enfants l'Ancien Testament, et Rachel, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Et Sarah, et donc, c'était une femme vue. Elle n'était pas mal vue, mais ce n'était pas bénie par l'Éternel. Donc, il faut qu'on voit ce point essentiel. Alors, quelle est la démarche de Anne? Quelle est la première démarche de Anne pour vivre en adoration? On va arriver à ce moment où elle va adorer le Seigneur, mais il y a un commencement. La première chose qu'elle fait, Anne, il faut que je sois ici, c'est de venir devant Dieu. Venir. Elle va avec son mari. Et elle se présente devant l'Éternel. Elle fait quoi? Dans les mots courants, elle déballe tout ce qu'on a, tout ce qu'elle a sous son cœur. Je ne sais pas s'il existait des mouchoirs à ce moment-là, mais je pense qu'il avait un bon tas à son côté qu'on est en train de déplorer. Alors, ce que me frappe quand on lit la parole de Dieu, et ça c'est pourquoi je vous encourage vraiment à l'étudier, parce que c'est fort. Et en plus, déjà que sa rivale est, comment ça s'appelle, Pénina, c'est l'autre femme de cet homme, Elkana, l'a mortifié, donc l'a embêté. T'as pas d'enfant? Moi oui. Donc elle devait assumer et voir tous les jours cela. Elle devait accepter tout ça tous les jours. Elle voyait son enfant courir de l'autre femme, et elle n'avait pas. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel. C'est l'Éternel qui avait fait ça. On va arriver à ce point-là tout à l'heure. Et chaque fois que Elkana allait au silo, souvenez-vous que pour l'instant, le temple n'était pas construit. C'était le tabernacle encore. Donc il allait au silo où le tabernacle était posé. Il allait offrir honneur au Seigneur. Donc il ramenait une offrande au Seigneur. Mais cette fois-ci, il va pleurer. Et là, quand elle va pleurer, verset 10 dit quoi? Anne se leva avec une manger et bu à Silo. Le sacrificateur Élie est assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, qu'est-ce que ça veut dire cela? Elle était énervée. On ne va pas aller dans le quatre chemins. Il était énervé. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, est écrit en hébreu. Donc l'hébreu, amertume, c'est quoi? Il était amer. Il était énervé. Il voyait tous les jours la problématique qu'il ne pouvait pas résoudre. Mais il avait atteint pas simplement ses pensées, mais son âme. Et le texte, le texte nous dit l'amertume dans l'âme, et elle pria et versa des pleurs. Dans le texte original, elle parle de un double, et il était angoissé et pleurait. Le texte en hébreu ajoute le côté angoissé. Donc, il était vraiment, vraiment en larmes. Et là, je vois, je comprends le sacrificateur Élie qui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces femmes-là? Il versa des pleurs et nous montre qu'il avait une double peine. Son âme et son cœur souffraient. Quand nous allons nous présenter devant le Seigneur, comment nous nous présentons? Qu'est-ce que notre âme, quand est-ce que notre âme a été dans l'amertume et versa des pleurs? Quand c'était la dernière fois? Je vais raconter mon expérience. La dernière fois, j'étais dans l'amertume, à ce niveau-là, c'était quand on a reçu la réponse de ce lieu aux États-Unis. C'était un jour, je suis en train de répéter, je vois la réponse, et la première chose que mon cœur ressent, c'est merci. J'étais énervé. Pourquoi ils n'ont pas répondu oui? C'était tellement notre désir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tout de suite, des pleurs. Mes enfants étaient pressants. Des pleurs. J'étais angoissé. Et quoi? La Bible dit qu'après, et quand, avant cela, et je ne sais pas si vous vous souvenez de David, le roi David, de le psaume 42, il dit ceci, au chef des chantres cantiques des fils de Corée, comme une biche, soupir après courant d'un an, on a un chant. Comme soupir une biche après l'eau d'un ruisseau. Vous vous souvenez de cela? Après le cours d'eau, aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant que mes dits sans cesse. Quoi? Où est ton Dieu? Et après le verset 42 et chapitre. Non, je suis revenu au même verset. C'est pas. Et où est ton Dieu? Il y a des gens qui disent où est ton Dieu? Et la chose qui se passe, tu vois, tu pleures et où est ton Dieu? Anne, je pense qu'elle pensait exactement la même chose. Seigneur, tu es où? Mais c'est qu'il a fait. La première démarche qu'il a fait, c'est venir devant Dieu. Et il s'est présenté au tabernacle, s'est présenté dans sa présence. Et le verset 15 dit ceci, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre, Élie pensait qu'elle était ivre, et non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre et en son cœur, et je n'ai vu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme, devant l'Éternel. Et répondre, c'est quoi? C'est verser quelque chose, le projeter sur quelque chose ou quelqu'un. Anne projette, verse son cœur devant qui? Pas devant Élie, devant l'Éternel. Elle pleurait, elle versait son cœur. Elle versait son cœur. Ceci est exprimé dans le fait que Élie voyait que ses lèvres bougeaient, s'exprimaient, et la meilleure chose qui peut nous arriver. Exprimer mon amertume devant le Seigneur nous amène à la répondre sur lui en lui faisant confiance qu'il entend. Qu'il entend. Versets 9 et 10 du chapitre 42 et du psaume dit ceci. Le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? C'est plusieurs années plus tard. David dit exactement la même chose. Pourquoi Dieu m'oublie? Mais je viens. Et pour commencer la démarche, pour commencer une vie d'adoration, c'est de venir devant le Seigneur. de ne pas rester derrière, caché, et souffrir tout seul. Parce que Jésus nous dit, je suis avec vous jusqu'à là, enfin, avec vous, pas à côté de vous, pas loin de vous, pas dans notre chambre, avec vous, jusqu'à la fin. Mais venez, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes cherchés et fatigués. Venez. Se présenter devant Dieu nous aide à le sortir de nos cœurs et le déposer devant celui qui peut faire l'impossible pour nous, avec le but de lui rendre gloire. Anne avait un seul désir, d'avoir un enfant. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. La démarche commence en venant devant l'Éternel. Alors, quand j'ai un souci, qu'est-ce que je fais? Souvent, je garde le contrôle. Je veux garder le contrôle, je veux le réparer moi-même. Avec, comme je conçois que je dois le faire. Mais la question, c'est de Dieu le lien. C'est pourquoi on ouvre le moment de partage. Pour venir dans la présence de Dieu et dire, waouh, je le sors de moi. Je le mets dans les mains de Dieu pour ne plus le voir dans ma possession. Seigneur, c'est à toi. Venir. Deuxième partie. Pas simple, une démarche importante, c'est de quoi? De venir devant le Seigneur avec son sujet, avec ma problématique. Deuxième partie de notre temps ensemble, c'est du verset 19 au verset 27. Et Gabriel, si tu peux bien le lire, s'il te plaît, de 1 Samuel chapitre 1, 19 à 27.
J'ai une Bible un peu différente, mais c'est pas grave.
C'est pas, je vais de toute façon l'afficher, donc c'est pas.
Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon, auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, j'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. Son mari lui dit, fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. Anne resta donc dans la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel, à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kg de farine et une outre de vin. Mais le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et en présence de l'enfant à Élie. Il lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici même pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. »
Merci. Jusqu'à là. Et l'Éternel a quoi? Exaucé. On m'a accordé la prière. La parole de Dieu, mes amis, quand on lit la parole de Dieu, il faut tenir compte de quelque chose. Là, on rentre dans le domaine de la herméneutique. L'herméneutique, c'est comment comprendre le texte dans son contexte. Et parfois, par exemple, Gabriel vient de lire que après qu'ils sont revenus, et verset 19, ils se levèrent de bon matin après avoir adoré l'Éternel. Et ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Point. Et Elkana a connu sa femme, ou a eu des relations sexuelles avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. On ne sait pas combien de temps s'est passé à cette heure-là. On ne sait pas. On ne sait pas combien de fois il était ensemble avec sa femme pour que il tombe enceinte. Mais la Bible dit, Dieu a touché le cœur de Anne. Mais de tout cela, il y a quelque chose que Anne a dû faire, c'est d'attendre. Attendre la réponse de Dieu. Ça faisait des années qu'il priait. Ça faisait des années qu'il avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, voilà, je te le mets devant toi pour que tu l'utilises pour ta gloire. Et chaque année, elle se levait, chaque année, elle souffrait, chaque année, c'était chose comme ça. Elle se levait chaque matin, je ne sais pas, mais peut-être chaque matin et chaque nuit, et elle priait pour cela. Mais Dieu, un jour, dit, voilà, c'est le moment. Un temps et un moment spécifique pour chaque chose. Attendre est le fait de volontairement dire à son âme, j'ai un grand Dieu qui est au-dessous de tout et en qui je peux être tranquille, qui va me répondre, c'est dans son temps et sa volonté. Je ne peux pas voir dans les pensées de Dieu. Je ne peux pas dire, Seigneur, il faut que tu me réponds de cette façon-là, sinon je suis en train de vouloir manipuler Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si j'essaye de le faire, je ne peux pas. C'est impossible car notre infinitude et la grandeur de la majesté de Dieu, ce n'est pas à nous, mais c'est à lui. Anne a dû attendre. Anne a dû être patiente. Et parfois beaucoup de temps. Et le mari de ma mère, sa femme est décédée d'un mauvais diagnostic. Il est mort. Il était pasteur dans ce moment-là depuis 30 ans dans une église. Et il a prié, Seigneur, guéris ma femme. Guéris ma femme. Guéris ma femme. Mais sa femme meurt. Sa femme décède. Il a dit, Seigneur, je ne vais plus prêcher de ça. Je ne veux plus parler contre ce mari, de parler de cela. Je ne veux plus parler parce que tu ne m'as pas répondu. Et en priant, il m'a raconté ça. Dieu m'a répondu. Je t'ai répondu. Ma réponse, c'était quoi? Il ne souffre plus. Il va mieux. Il est avec moi. Mais je t'ai répondu. C'est dans ma volonté. C'est le montant, c'est ce que je décide. Anne, tout à l'heure, va dire qu'elle va adorer le Seigneur. Elle va dire, on va le lire tout à l'heure. Je ne vais pas m'avancer. Dieu décide quand il va répondre une personne. On va faire en sorte qu'une situation soit selon sa volonté. Et je ne peux pas, mes amis, on ne peut pas se mettre dans la tête de Dieu et dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et comme un bon gentleman, il va te dire, ce ne sont pas tes affaires, ce sont les miennes. Ces pensées, ce ne sont pas nos pensées. Ces voix sont trop hautes pour nous. Je ne peux pas essayer de me mettre dans lui parce que, dans ses pensées parce que c'est impossible. Dieu nous demande d'attendre. Attendre. Attendre, c'est de dire à Dieu, tu es ma principale source de joie. En toi seul, je me confie. Le chant dit, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, ne rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile. Attendre est de remettre à Dieu tout ce que je désire et lui laisser faire sans que je l'aide entre-temps. Car cela ne va jamais marcher. Et la Bible en a des exemples. Il y a un des plus grands, c'est quand c'est passé avec Sarah, la servante de Sarah, avec Abraham. La promesse était donnée à Abraham, tu auras un enfant de Sarah. Et ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais aider. Tiens, voilà ma servante. Je ne peux pas parce que je suis vieille. Voilà ma servante. Il est venu Ismaël. Dieu a gardé Ismaël? Oui, la Bible le dit que Dieu a pourvu pour Agar et pour Ismaël. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a des soucis en Israël en venant de cela. Je ne veux pas rentrer dans tout ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est plus loin, mais tous les côtés arabes et tout ça vient de la part d'Ismaël. Le cœur de l'homme, c'est devenu de plus en plus méchant. Donc, ce n'est pas la faute d'Ismaël. D'accord? Je ne dis pas que la Bible dit ça. Mais attends-moi. Et ce n'est pas simple d'attendre. Verset 11 de chapitre 42 de Psaume dit quoi? Mes sauts se brisent comme mes persécuteurs m'outragent. Et en me disant, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il a dû attendre. Il a reçu ce qu'il avait prié. Et ce qu'il a fait, Seigneur, je veux garder cet enfant jusqu'au moment qu'il soit sévré. Dans ce moment-là, selon les gens qui ont étudié et comment ça marchait dans ce moment-là, le peuple d'Israël, jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, il était sévré. Mais après, il allait mettre Samuel dans un site d'internat. Un site d'internat. Parce qu'il venait tous les ans, la maman, le voir. Il allait laisser déposer Samuel devant Élie, le sacrificateur, pour qu'il puisse apprendre ce qu'elle avait appris. Donc l'attente pour Anne a été accomplie. Mais parfois, pour vous et pour moi, ça va être plus loin d'attendre. Des années. Et peut-être que Dieu va répondre d'une façon de laquelle nous, on ne peut pas écouter. Comment on va répondre? Adorer, ça veut dire, Seigneur, je te remets tout ce que j'ai. Et je vais attendre. Patiemment. Et je vais accepter ta réponse. Venir. Attendre. Avec le but de quoi? De adorer. Adorer. Verset 28 jusqu'à chapitre 2, verset 10, nous voyons la chose suivante. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. En pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait. Qui sait tout, pardon. Et lui, et par lui, son pensée pesée pendant toutes les nations. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force et pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour deux pains, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même les stériles enfantent sept fois, et celles qui avaient beaucoup d'enfants et flétrit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. C'est qui? Écoutez-moi bien. L'Éternel fait Moïse vivre. Il fait descendre au séjour des morts et le fait remonter. C'est exactement la même chose. Je ne peux pas dire à une femme, écoutez bien ce que je dis, parce que c'est important. Je ne peux pas dire à un couple qui a une fausse couche et dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est hors de question. Parce que c'est moi me mettre au niveau de Dieu et dire, la Bible dit ça. Donc la Bible ne dit pas ça. Je ne sais pas pourquoi cela arrive. Dieu a un but. Je ne sais pas pourquoi Dieu décide de prendre un enfant ou un adulte ou une personne âgée et dire, c'est le moment, je ne sais pas pourquoi. Dieu seulement le sait. Mais il te dit, je suis là et tu veux que tu m'adores. Même au milieu de ces difficultés, je veux que tu viennes devant moi. Verset 7, l'Éternel a appauvri, il y enrichit, il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. On a un chant qui dit ça. Et il leur donne un partage, un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et sous elles qui a posé le monde. Verset 9, il gardera le pas de ses bien-aimés. Mais les méchants sont anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera des extrémités de la terre et il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. C'est super. Je vous encourage à le relire chez vous. Anne reçoit la réponse de la part de Dieu, un enfant, et elle accomplit le vœu en lui laissant avec Élie pour que Samuel soit devant Dieu et le suive. Ici, nous avons une fin joyeuse à l'histoire d'Anne, où Anne exalte la majesté, la souveraineté et la bonté de Dieu. Une belle prière. Mais si Dieu ne répond pas à la prière comme nous attendons, quelle doit être mon attitude? Mes amis, Dieu n'est pas un génie de la lampe qui est à notre disposition. Qu'on frappe quelque chose, on prend la Bible, on dit, je vais prier 3 fois par jour pendant une semaine et Dieu va me répondre. Je vais jeûner 2 mois d'affilée et Dieu va me répondre. Non! Je ne viens pas devant le trône de grâce pour que Dieu fasse ce que je veux. Je viens devant lui parce que j'ai besoin de lui, c'est l'inverse. Je viens devant lui, Seigneur, je te mets devant toi et je dépose, et je sens ma main, je dépose devant toi mes soucis et je le laisse pour que tu me répondes. Mais en même temps, je me dis, je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu, mon avenir dans... On le chante, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Mon avenir est dans ta sûre main. Non? Mon avenir, c'est quoi? D'ici 5 minutes. Parce qu'on ne sait pas. Parfois, on demande mal. Le livre de Jacques, chapitre 4, dit que on prie dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, je te prie pour une voiture. Est-ce que c'est mauvais prier pour une voiture? Non. Est-ce qu'on a besoin parfois d'une voiture? Non. Parfois, c'est pour notre passion, pour notre désir, mais pas pour ce que Dieu veut pour nous. On a une problématique un jour. On a vu certains de nos frères en piste et changer leur voiture. Et notre voiture était bien. Mais la jalousie, je peux dire comme ça, a gagné notre cœur. Donc on a dit, il faut qu'on change notre voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des prêts, comme tout le monde fait, effectivement. Et on a changé notre voiture. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette voiture-là? Il a commencé à avoir des problèmes. 2 mois, 3 mois après qu'on avait sorti. Et en revenant en arrière, même quand on avait cette nouvelle voiture d'occasion chez nous, on a vu que On avait prié, Seigneur, donne-nous pour avoir. Au lieu de demander, Seigneur, est-ce ta volonté qu'on ait une nouvelle voiture? On n'avait pas demandé. On n'avait pas demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé pardon au Seigneur. On a vendu la ça s'est passé quelques mois ou années, je ne sais pas combien de temps. Et on a vendu la voiture. Et on s'est dit, Seigneur, on a payé les prêts. Et Seigneur, il nous reste temps. On ne sait pas quoi faire. Il nous a pourvu une nouvelle voiture. Cette voiture, son moteur est cassé. Et le Seigneur, là, on sait bien qu'on t'a demandé. On te dépose ces soucis devant toi. Pour un moment, on avait notre voiture, notre moteur claquait, tac, 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 chaque fois qu'on partait. Il fallait mettre presque le même prix qu'on avait acheté la voiture pour changer le moteur. On n'avait pas d'argent pour ça. Seigneur, c'est ton problème. C'est pas la mienne. On doit le déposer devant toi. Quelqu'un nous prête une voiture. On vient de tout cela. On n'a même pas posé la question à quelqu'un. Quelqu'un vient, écoute, je vois que vous n'avez pas de voiture. J'ai une voiture que je n'utilise pas. Est-ce que vous voulez l'utiliser? Bien sûr. Il n'y a pas 6 places, il n'y a que 5 places. C'est pas grave. Et la voiture noire que vous voyez qu'on utilise aujourd'hui, c'est celle-là que Dieu nous a donnée.
Un an plus tard.
Mais Dieu l'a revu. Et jusqu'à aujourd'hui, il nous a tenu. Il tient. Après 3800 km faits aller-retour, enfin, dans les vacances qu'on a fait avec les enfants, il tient encore. On dépose devant l'Éternel tous nos soucis. Tous nos soucis. Financiers, familiales, professionnels. Et Dieu bénit. Et Dieu répond. Selon sa volonté. Avec le but de quoi? De l'adorer. De l'adorer. Adorer, c'est l'expression de ma reconnaissance devant Dieu par mes actions, par ce qu'il a fait. Le chant dit, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en quoi? En l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Si cela n'est pas clair, je ne sais pas qui est autre chose qui peut être clair. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un suite. Quand on vient de l'Éternel et on dépose toutes nos choses, tous nos soucis, commence une période d'attente. Et quand Dieu répond, n'importe le type de réponse, nous devons quoi? Même en attendant, adorer. Et dans l'adoration, mes amis, les larmes sont permises. Et dans l'attente, les larmes sont permises. Et dans la prière, les larmes sont permises. Je peux pleurer. Et qui a dit, les hommes ne pleurent pas, mensonge. On doit tous pleurer. On doit venir devant le Seigneur et répondre à notre âme. Et cela, la démarche importante. Vivre en adorant, commence en venant devant. Mes amis, que cette année soit une année de persévérance, de vivre en adoration. Pas simplement un jour par semaine, mais tous les jours. Tous les jours. Je ne connais pas quels sont vos soucis, mais je vous encourage, comme Anne, elle a préféré ouvrir son cœur devant Dieu et de partager ce qu'il avait. Et Dieu a répondu. Il a adoré. Il a une dernière question pour nous avant de prier. Quel est le fardeau que tu as dans ton cœur? Viens répondre ton âme. Viens répondre ton âme devant l'Éternel. Il va exaucer vos prières. Il va le faire. Parce que Dieu, c'est dans son temps, selon sa volonté, et c'est dans ce que lui, il a déjà prévu de nous répondre. Mais pas pour notre gloire. C'est pour notre bien, mais c'est pour sa gloire. Prions ensemble.